De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode culture et sport. Vous le savez maintenant, durant les JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce dernier épisode, et oui, c'est passé vite, notre invité, c'est le réalisateur et scénariste François Luciani. On va parler des duels légendaires qui ont révolutionné le tennis des années 80 avec Borg, McEnroe et Yannick Noah. Pour François Luciani, au cinéma comme sur un court de tennis, c'est silence, moteur, on tourne et surtout on joue. De Vive Voix spécial JO, c'est parti. Bonjour François Luciani.
Bonjour Laurence.
Réalisateur, metteur en scène d'une cinquantaine de films pour la télé, dont Le procès Bobigny, auteur du roman Croque-Monsieur aux éditions Hermann, et aussi, il faut dire, tennisman.
Oui, enfin tennisman, disons que je joue au tennis, oui, c'est parce que tennisman ça veut dire que je suis un professionnel du tennis, ce qui est pas mon cas.
Ah, vous êtes classé quand même, non ?
Ah oui, je continue à faire de la compétition, avoir un petit classement quand même. Ouais, je vais me considérer comme un honnête joueur de club, on va dire, voilà.
C'est pas mal ça. Bon, déjà. Honnête joueur de club, je crois que ça remonte à très longtemps quand même. Vous vous souvenez de la première raquette que vous avez eue entre les mains ?
Ça me renvoie aux jeunes années. Alors du coup, je m'en souviens très bien. En fait, c'est ma première raquette. C'est une raquette en bois avec un petit ami au sens un petit tami,
hein,
c'est-à-dire un petit cadre. Hein, voilà.
D'accord.
Et je sais très bien que c'est ma mère qui me l'avait offerte parce que à l'époque, quand j'étais gamin, c'est un peu moins le cas maintenant, mais le tennis était quand même un sport de riche, il faut bien le dire.
Ouais, enfin, ça allait encore un petit peu.
Ça s'est un peu démocratisé quand même. Ouais. Hein. Mais enfin, à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment un sport réservé à
une
certaine classe sociale, on va dire. Mmh. C'est un sport de bourgeois, quoi. Bon, faut bien le dire. Hein. C'est pas une critique. Hein.
Ouais.
C'est quand même la vérité. Et donc, ma mère avait remarqué que j'avais un certain goût pour ce sport-là.
Mmh.
Donc, elle avait chopé un petit magasin dans le quartier du Marais. C'était un gars qui était assez isolé dans une petite rue du Marais et qui revendait d'occasion des raquettes de champions.
Ah bon ?
Oui, oui. Bon, j'ai hérité d'une raquette d'occasion, hein, évidemment.
En bois, je crois.
Elles étaient toutes en bois à l'époque. C'était une raquette Snowert, je me rappelle de cette marque. Mais après, non, il n'y avait pas le nom du champion dessus.
Alors, en parlant de joueur professionnel, forcément, quand on parle tennis, dans les années 80, le tennis est incarné par ce duel, cette rivalité légendaire entre le Suédois Björn Borg et l'Américain McEnroe, quelque part, parce que vous êtes réalisateur de films, comme dans un film. Chacun a un rôle inversé à l'autre. Y a le feu, il y a la glace, il y a le mauvais caractère, il y a le froid. Il y a une vraie dramaturgie aussi des personnages, non ?
Ah bah oui, surtout à cette époque-là, enfin dans les années 80, les grandes finales à Wimbledon et à Roland-Garros avec John McEnroe et Björn Borg, c'était une dramaturgie extraordinaire, c'est sûr. C'était des matchs en 5-7 qui duraient 5 heures. Enfin, c'était, et c'est surtout, ce qui était beau, c'est que c'était une opposition de style. C'est-à-dire que...
Et de caractère.
Alors évidemment, c'était deux caractères totalement opposés et deux styles totalement opposés. Sans entrer dans le détail technique de la manière dont ces deux joueurs jouaient, chacun le sait. Björn Borg, il jouait un tennis plutôt du fond du court en liftant, c'est-à-dire en donnant un effet à la balle. Et quand la balle touche le sol, elle gicle en hauteur. Voilà. Alors que John McEnroe, lui, jouait sa technique de service volé. C'est-à-dire qu'il sert et il monte directement au filet. Ça n'a strictement rien à voir. C'est deux oppositions, mais majeures.
Deux oppositions et deux caractères. Je vous propose d'écouter. Là, on est le 5 juillet 1980. C'est juste avant la finale historique de Wimbledon avec un tie-break mythique, paraît-il.
Oui.
Je ne l'ai pas vu. Voilà ce que John Borg disait de lui-même.
Sur les courts, tout le monde dit que je suis une machine, que je joue comme une machine, que je n'ai pas d'émotions, de sentiments, que je ne laisse rien voir sur mon visage. Mais sur les courts, il faut que je sois comme ça, parce que si je veux bien jouer, il faut que je sois concentré, et ça, c'est moi sur les courts. Et quand j'ai réalisé un bon coup, ou quand je fais un point gagnant, j'ai envie de sourire, et je me sens heureux. Seulement, je ne le fais pas voir. Je reste le même et je pense au point suivant.
Alors là, il y a Borg qui pense au coup d'après. Et là, deux jours avant cette finale, McEnroe, 21 ans, il est en demi-finale face à l'Américain. Jimmy Connors pense que François Luciani, vous l'avez vu. Sauf que voilà, à cet instant-là, il pète carrément un câble.
Vous n'êtes pas sérieux, mec. Bon sang, vous ne pouvez pas être sérieux. Cette balle était sur la ligne. Tout le monde ici l'a vue. Elle était bonne. Comment pouvez-vous dire qu'elle est faute? Comment pouvez-vous vous tromper? Tout le monde a vu qu'elle était bonne dans le stade et vous vous dites qu'elle est faute.
Non, François Luciani, je vois que ça vous fait rire. McEnroe qui insulte l'arbitre, ça lui arrivait aussi de casser sa raquette en plein match.
Mais you can't be serious, c'est devenu un mythe, quoi.
C'est
mythique, cette réplique. Enfin, c'est vraiment une réplique de cinéma. Hein.
Ouais.
C'est, voilà.
Il surjoue son rôle.
Non, mais il faut comprendre. C'est-à-dire, d'abord, vous dites 21 ans. Mm. 21 ans, c'est quand même des jeunes, quoi. Et ça, je trouve ça déjà merveilleux.
Ils sont tous jeunes, de toute façon.
Ils sont tous, voilà, 20 ans, 21 ans. Et je vois la façon dont Björn Borg parle de son jeu, la manière dont il est concentré. Mais c'est un jeune homme.
Enfin, l'autre, Borg, il avait quel âge? Il était tout aussi jeune.
Pareil, il devait avoir une vingtaine d'années. Ouais. Donc, c'est des jeunes, quoi. Et donc, c'est très difficile quand on est si jeune d'être capable de se concentrer aussi longtemps.
Mais il n'y a pas une part de show quand même, parce qu'il ne bouscule pas les codes.
Je ne crois pas. Enfin, il y a du show, oui, bien sûr. Mais il faut comprendre que, par exemple, le jeu de John McEnroe, c'est un jeu d'extrême concentration. C'est-à-dire que le jeu de service volé, c'est un peu comme de la danse classique, si vous voulez. Il y a un nombre de pas, et lui, dans sa tête, jusqu'à la volée, jusqu'au filet, avec le carré de service, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de la danse. Mmh. Et lui, John McEnroe, il a dans sa tête, il le dit d'ailleurs dans une interview que j'ai pu lire ici et là, que le terrain, il est quadrillé dans sa tête, au millimètre.
Ouais.
Et donc, il a une technique qui est adaptée pour propulser la balle à un millimètre près, quoi.
Tout est calculé.
Donc c'est très très calculé.
Alors vous parliez de Borg qui était jeune aussi, de McEnroe. Là on est en 2014, donc c'est plus récent. McEnroe, tennisman à la retraite, il revient justement sur son côté chaud et sa rivalité avec Borg au micro de Thierry Ardisson.
Alors vous détrônez Borg et le jour où vous détrônez Borg, qui était vraiment le dieu, vous vous retrouvez un peu bête, quoi. Vous avez une sorte de baby blues.
Oui, j'étais très triste quand John s'est arrêté de jouer parce que lui, il avait un peu tout remporté. C'était vraiment un très grand et donc c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et effectivement, lui, il me posait absolument pas de problème en dehors des cours. Pour moi, c'était un peu comme un dieu vivant. Et je pense que c'était vraiment un très grand ami aussi. Et en fait, c'est lui qui m'a permis de mieux jouer au tennis. Et donc pour moi, ça a été vraiment très dur lorsqu'il est parti. Même pour le tennis, de manière générale, ouais. C'était très dur.
Mais est-ce que ces colères, finalement, n'étaient pas dues tout simplement à la peur, John?
Oui, en partie, c'était dû à la peur, c'est vrai. La peur de perdre, la peur de perdre ce qu'on a, la peur de ne pas être aussi bon que son adversaire. Et il faut dire aussi que j'ai grandi dans un environnement à New York où il y avait beaucoup de gens qui gueulaient, qui criaient. Il y avait mes parents qui m'aimaient, mais bon, ils criaient beaucoup, ils râlaient beaucoup. Et donc, à New York, les gens s'engueulent comme ça. Quand ils vont à l'aéroport, par exemple, vous montez dans un taco, un taxi, et puis il y a des gens qui vous disent « espèce de trou du cul !» T'es un nul.
McEnroe, l'enfant bruyant de New York, il rend quand même un bel hommage à Borg. Hein. Il en parle comme un dieu vivant qui l'a fait progresser lui-même, mais aussi le tennis. Hein. Qu'en pense le réalisateur tennisman aussi, alors hein.
C'est un peu comme des acteurs, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que deux comédiens peuvent améliorer leur niveau de jeu en proposant des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus belles, de plus en plus inattendues. Sur un plateau de tournage, c'est un peu ça. Mmh. Donc quand on met deux, j'allais dire, monstres sacrés sur un plateau, le talent va s'additionner avec du talent, quoi. Mmh. Et ça va donner des choses, enfin pas toujours, hein, mais ça peut donner en tout cas des choses extraordinaires, oui.
C'est le réalisateur et auteur François Luciani, l'invité de Vive Voix. Parlons d'un autre héros inspiré d'une histoire vraie, comme on dit dans les bandes annonces de cinéma. Il y a une autre finale qui, je crois, vous a marqué en tant que réalisateur de film. Cette fois-ci, nous sommes à Roland-Garros, le 5 juin 1983.
Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Vilander avec son service. Angoisse dans le clan Noah, Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
J'ai toujours envie de partager, c'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi. Et Patrice est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération, tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps, et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros, et j'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
Voilà, Yannick Noah, 23 ans, qui remporte Roland-Garros en 1983 en battant le Suédois Mats Wilander. On se souvient de ses larmes de joie. Hein, et là, il enjambe le filet pour aller embrasser son père. Vous étiez devant c'est... votre poste de télé, j'imagine.
Évidemment, je me souviens très très bien de ce moment extraordinaire. Mais Yannick Noah, à 23 ans, 1m93, c'est un athlète sublime. Et il jouait lui aussi service volé d'ailleurs. Mmh. Donc il avait une volée magnifique, un service superbe. Alors voilà, mais ça fait 40 ans, quoi. Un peu plus, mais maintenant.
Ouais.
Donc, ouais, on aimerait bien qu'un
Parce
jour...
Que depuis lui...
Non.
Vous dites athlète, par exemple, qui perce l'écran. On sait que, par exemple, Yannick Noah s'est lancé dans la chanson avec Saga Africa. Il est devenu chef de village familial aussi au Cameroun. Il s'est essayé au cinéma. D'autres, comme le footballeur Eric Cantona, a tenté, enfin, d'ailleurs plus que tenté, puisque là, il a une vraie carrière dans de nombreux films. En tant que réalisateur, c'est compliqué aussi de faire tourner un sportif. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il va réussir à incarner un personnage au-delà de lui-même?
C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où qui que ce soit, j'ai envie de dire, se présente sur un plateau de tournage pour jouer la comédie, il faut qu'il soit comédien. Et être comédien, c'est très simple, c'est interpréter un personnage. Donc quitter sa propre image pour endosser un personnage imaginaire.
Mais quand on est ultra connu comme Noah ou autre, comment on quitte sa peau, son personnage, ou en tout cas l'image qu'il peut avoir auprès d'un public
tout le,
jouer un, je sais pas, un notaire ou, c'est compliqué quand même.
Alors d'abord, il faut choisir l'emploi. Puis ensuite, adapter cet emploi à la personnalité du comédien. Je crois que Björn Borg, il a arrêté à 26 ans. Donc, la vie commence à 26 ans. Quoi. Et eux, ils sont déjà en reconversion, quoi, quand même. C'est pas si simple. Mmh. Et donc, s'inventer, comme on dit maintenant, se réinventer, c'est pas si évident. Et donc, chacun cherche
son chat,
ou sa raquette, ou son personnage. Et dans le cas d'Éric Cantona, oui, il voulait être comédien, mais je pense qu'il était influencé par sa femme, hein, parce que Rachida Brakni, qui est une excellente comédienne, a dû aussi l'aider pour justement... trouver sa voie à l'intérieur de ça. Mais aujourd'hui, je pense que Eric Cantona, oui, là, ça fait partie des exemples de sportifs de haut niveau qui ont bien trouvé une nouvelle image d'eux-mêmes.
C'est ça. On continue à parler de sport et cinéma, de muscles et de la plume dans De Vive Voix spécial Géo avec le réalisateur de films François Luciani. Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de films, finalement, sur le tennis, au cinéma, hein, j'entends?
Alors, oui, c'est vrai que y a pas, oui, je le regrette en fait, hein, mais il n'y a pas tellement de sport, de films sur le tennis.
Se comparer à la boxe, par exemple.
Ah,
films d'action sur la
boxe.
Non,
mais parce que le tennis, en fait, le tennis, c'est sur le temps long. C'est 3 heures, 4 heures, 5 heures de match. C'est donc pas si spectaculaire que ça. Il faut être complètement accro.
Peut raconter une légende de tennis.
Ah oui.
On parle pas de documentaire.
Alors, il y a eu quelques documentaires, c'est vrai. Pas beaucoup de fiction. Mmh. Alors, j'ai une affection pour les documentaires en particulier qui abordent les sujets du tennis américain dans la période de ségrégation. C'est Althea Gibson, une magnifique joueuse de tennis qui était noire-américaine.
Ouais.
Ses parents, je crois, étaient métayers. Mmh. Et alors, elle a appris... Ça, j'aime bien, ça. Vous voyez, elle a appris à jouer au tennis, c'est-à-dire dans la rue. Parce qu'à cette époque, une fois par mois, je crois, la municipalité de la ville où elle habitait bloquait la rue principale pour permettre aux jeunes, entre guillemets, défavorisés, donc les Noirs, de pratiquer un sport. Et ce n'était pas tout à fait le tennis, mais enfin, c'était un sport de raquette. Et puis, de fil en aiguille, elle a été repérée. C'est la première joueuse noire américaine qui a un palmarès aussi énorme, bien avant Arthur Ashe.
Ouais. Mais on le disait, à l'inverse, il y en a eu hein, des films, je reviens là, notamment sur la boxe, parce que vous parlez de l'ascension sociale, évidemment, dans les années 80, on se souvient de toute cette série avec Rocky, réalisée par Sylvester Stallone, dans la peau de Rocky Balboa, hein, qui est lui aussi issu des quartiers populaires. Comme si le tennis avait encore cette image élitiste, et la boxe, c'est en tout cas dans la culture américaine, l'ascension sociale. On peut s'en sortir sur le ring quand on vient de rien.
C'est sûr. C'est vrai que le tennis, c'est un sport de riches, hein, soyons simples. Hein. Alors que la boxe, non, c'est un sport de pauvres. À un moment donné, on est obligé d'avoir des catégories. Et la boxe, c'est... Alors, il y a beaucoup de films sur la boxe qui sont magnifiques, hein, très souvent, qui racontent souvent un peu la même histoire d'un gars de la rue qui arrive à se faire un nom en tapant. Hein, il n'a que ses mains, ses poings pour se défendre. Et gagner de l'argent, en fait, c'est sortir de sa condition.
Ouais. Et je crois savoir que pour vous, le film culte qui met en scène la boxe, c'est celui-là.
Il résonne encore dans mes oreilles, et pendant des années, ils resteront dans mes pensées. Je me rappelle chaque chute, chaque crochet.
Tu veux me dire où ça te mène, ça? Mais où ça te mène, dis-moi?
Ça, c'est le spectacle.
Jacques, c'est le spectacle, la bande-annonce du film Raging Bull en 1981, réalisé par Martin Scorsese, avec forcément Robert De Niro, qui incarne le boxeur Jack LaMotta, l'ancien champion du monde des poids moyens, et qui a été entre autres le tombeur de Marcel Cerdan en 1949. Pourquoi, vous-même, en tant que réalisateur de films, c'est un film culte pour vous
hein? Oh, pour beaucoup de raisons. Alors, d'abord parce qu'il y a la performance d'acteur. Bon, puis après, c'est vrai que j'ai quand même une grande admiration pour le réalisateur Martin Scorsese. C'est un film en noir et blanc, alors qu'on tournait en couleur à l'époque. Hein. Donc, il a voulu reproduire aussi l'espace de cette période américaine, du ring avec les lumières violentes, etc., du noir et blanc. Puis alors, évidemment, c'est un film d'une extrême violence. Parce que la boxe, c'est un sport de combat. Donc, c'est rare qu'un combat soit pacifique. Hein. C'est des combats extrêmement violents. Et Jack LaMotta avait, dans son caractère, hein, une certaine violence. C'était un homme purement et simplement violent. Il tapait sa femme. C'était pas quelqu'un de facile hein, du tout. Hein. Bon. Même si, alors, bon, c'était le côté rital un peu. Hein. Donc, il y avait un peu ce tempérament, son frère, tout ça, la famille. Bon, ils étaient un peu tous énervés, on va dire, un peu de tempérament, quoi. Bon, très vite, ça pouvait tourner vinaigre, hein, on va le dire.
Et pour incarner le boxeur Jack LaMotta, Robert De Niro a appliqué la fameuse méthode Actor Studio, hein, vous connaissez, en tant que réalisateur, pour se transformer physiquement. Comme il explique au micro de Michel Drucker à la télé, on est toujours en 1981.
Comment avez-vous fait pour prendre 30 kilos, pour devenir presque un poids lourd, puisque c'est un poids lourd maintenant à la fin de sa vie? Et comment avez-vous fait pour redevenir mince, pour les perdre ces 30 kilos?
En fait, ça n'a pas été tellement difficile, voyez-vous. En réalité, non, tout bien réfléchi, c'était difficile et c'était facile en même temps. Comment dirais-je? D'abord, je songeais à cela. Lorsque nous avons fini le tournage, quand nous avions, j'avais perdu environ 15 à 20 kilos. Mon frère, voyant que j'étais en très mauvaise forme, m'a dit qu'il fallait que je reprenne sur moi, que je me remette en forme. Et après la fin du tournage, au bout de 18 semaines de tournage, vers la fin de ces 18 semaines, j'étais avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque. Je me trouvais moi-même sur une balance, sur un pèse-personne. Il m'a regardé, il m'a dit, enfin, c'est pas possible. Toi, tu pèses 15 kilos. Et je dis à mon fils, eh bien, je lui dis, tu vois, tu as... en quelque sorte peser ce que moi j'ai perdu et ensuite regagné et reperdu à nouveau. Et je me souvenais de cela parce que je le portais sur mes épaules et je me rendais compte du poids que cela représentait, si vous voulez, en permanence. Et j'ai perdu ce poids, je l'ai perdu lentement, certes, et tout cela peut vous sembler un petit peu décousu. Je n'étais pas très satisfait du résultat, mais j'étais certain de pouvoir reprendre mon poids, d'être à nouveau en bonne santé et de reprendre une vie normale.
Voilà, Robert De Niro et en même temps François Luciani, vous qui avez tourné avec énormément de comédiens. Tous les acteurs aiment se transformer physiquement, hein. C'est partie de la performance aussi.
Oui, c'est, si j'ose dire, c'est le cœur du métier. Mmh.
Hein, oui, mais enfin, de là à prendre 30, 40 kilos...
Alors voilà, après, il y a des acteurs qui aiment aller très très loin, pousser loin la performance d'acteur. C'est le cas de Robert De Niro, bon, on connaît son palmarès, il est magnifique. Et là, il était particulièrement sublime dans ce rôle, parce que la fin tragique de Jacques Lamotta, c'est que là aussi, quand il a dû faire sa reconversion, il est monté très haut, puis il est redescendu très bas, ce qu'aiment beaucoup les Américains, hein, les montées, les chutes, etc. L'ascenseur social qui est souvent monte haut et descend bas, c'est rare d'en monter après d'ailleurs. Et en l'occurrence, là, Jacques Lamotta, il a fini, d'ailleurs c'est dans le film, si je me souviens bien, comme il racontait des anecdotes dans des bars le soir, mais c'était une déchéance, hein, il est devenu de plus en plus pathétique, ouais. Et il était devenu gros, et voilà, il buvait, il fumait, et puis il racontait des anecdotes pour $2, quoi. Ouais. Et les gens rigolaient, quoi, parce que, en fait, il racontait sa vie de boxeur, avec tout son succès, mais le temps avait passé, les années là-dessus, quand il racontait ses anecdotes, c'était minable, en fait, c'était devenu... Aminam, quoi, tout simplement. Mais la performance de Robert De Niro pour le film qu'avait tourné Martin Scorsese, elle est extraordinaire parce qu'en fait, il avait donc, si je me souviens bien, il avait donc commencé par grossir, hein, c'est ça. Hein, donc, et alors, si j'avais lu dans la presse, mais je suis pas sûr, hein, faudrait peut-être virer, parce qu'on lit beaucoup de choses dans la presse, c'est pas forcément.
Ben, non, ça dépend dans lesquelles.
Je suis d'accord avec vous. Mais enfin, bon.
Donc, il a commencé par grossir et après par. Parce que comment on tourne
voilà.
un film.
Donc, alors, il a dit que. Moi, ça m'a fait sourire. Il a dit, ben, en fait, c'était pas très compliqué. Ils ont commencé donc les scènes où il était gros. Il devait peser, je crois, 80 et quelques kilos, 90
plus
kilos.
Plus que 30 kilos.
Voilà. Et donc, pour ça, il est venu en France. et il s'est coquiné avec quelques bons restaurateurs parisiens. Et il a mangé, il le dit lui-même, à la française. Donc,
et
en l'espace de quelques, même pas 2 mois, il a pris quand même une bonne vingtaine de kilos. Donc après, ils ont interrompu le tournage.
C'est ça.
Et ensuite, il a dû mettre un certain nombre de semaines pour perdre les kilos qu'il avait mangés.
Et retourner les scènes à l'envers.
Et retourner, alors cette fois, les scènes de boxe. Parce qu'on ne peut pas être champion du monde des poids moyens si on pèse, si on est obèse.
Et nous sommes toujours en compagnie avec le réalisateur et auteur François Luciani pour parler de sport et de cinéma. Le rôle du réalisateur que vous êtes, qui gère à la fois des comédiens, des équipes techniques, des égos, du stress, des imprévus. Il y a un côté quoi ? Coach sportif aussi, chef d'équipe, entraîneur, si on continue dans les métaphores sportives, ou c'est au-delà ? Ou c'est autre chose ?
Enfin, réalisateur de film, auteur, quoi. C'est quand même d'abord de la concentration, c'est ça. C'est...
D'où le mental des sportifs alors.
Oui, je pense que d'abord c'est ça. Il faut vraiment avoir du mental, quoi. Ça c'est clair. Voilà, parce qu'on est seul. Alors c'est pour ça que j'aime bien le tennis. D'ailleurs, la boxe c'est aussi un sport solitaire, c'est un sport individuel. Hein. Mais parce qu'on est seul, on est seul avec soi-même. Donc voilà, il n'y a pas d'autre solution que faire face à quelque chose qui n'existe pas. Il faut créer avec une équipe nombreuse. C'est parfois plusieurs centaines de personnes. Toutes ces personnes mises dans la pression d'un tournage qui est elle-même sous la pression économique, qui est elle-même sous la pression des diffuseurs, etc., etc., ça fait une espèce de cocktail explosif. Et si on n'est pas à même, d'avoir travaillé sur soi pour gérer ses émotions, bien alors ça part en vrille.
Oh bah justement, le fait de jouer au tennis, ça vous aide,
oui,
ça
bien sûr, bien sûr.
Mental,
et d'ailleurs, complètement. C'est-à-dire que c'est le même genre de pression. C'est-à-dire que quand on est mené ou quand on a une balle de match, on le voit à la télé, quand même les grands champions, ils ont le stress au moment de voilà. Et donc c'est tout ça qui fait que effectivement c'est un très bon complément pour moi entre le travail de réalisation ou même d'écriture et le travail l'espace du sport dans la création.
Le sport comme le cinéma qui rassemble malgré les différences, vous y voyez un parallèle ou pas?
Oui. Il y a une vraie fraternité dans le sport, ça c'est sûr, particulièrement dans le tennis où une des grandes qualités du tennis c'est le fair play. Donc,
quoi qu'on a l'impression de voir quand même de plus en plus, pardon, mais dans certains matchs ou autres, un public qui parle fort, qui supporte, qui moins de gentleman qu'à une certaine époque, non ?
Oh ben ça c'est vrai malheureusement, c'est vrai. D'ailleurs même les joueurs s'en plaignent, hein, parce que vous voyez, quand, par exemple, il y a une chose qui est très belle dans le tennis quand on est sur le central de Roland Garros, je crois qu'il y a environ 40 000 personnes, c'est le silence. C'est merveilleux de voir que tout un groupe aussi vaste, aussi nombreux, est capable de garder le silence pendant les échanges pour respecter les joueurs. Et puis parce qu'on comprend la concentration, et la concentration, elle ne peut se faire que dans le silence. Mmh. Et donc ça, je trouve que c'est merveilleux dans le tennis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques dérives, mais les joueurs s'en plaignent. Et je pense que ça va pas... Alors oui, après, peut-être, on verra, peut-être le tennis peut évoluer. Ça, bon, d'accord, on va pas jouer à l'ancienne. Mais sur la pratique de ce sport, il est certain que la concentration va avec le silence.
Mmh. Pour terminer, comme à chaque fois, François Luciani, un petit quiz pour savoir quel type de sportif vous êtes, au-delà du côté tennisman ou plutôt joueur de tennis, je l'ai bien compris. Est-ce que vous êtes plutôt du genre sport collectif ou individuel ?
Individuel.
Individuel.
Oui.
L'essentiel pour vous, c'est de gagner, de gagner une coupe, de gagner une victoire du cinéma ou c'est de participer ?
Ah non, moi c'est gagner. pas participer de quoi ? Non, non, l'idée, on arrive sur un terrain, c'est pour gagner, c'est tout.
Et bon perdant, mauvais gagnant ?
Mauvais perdant, pardon.
Rôle préféré au sein d'une équipe, même de tournage ? En même temps, vous êtes réalisateur, leader, compétiteur, coéquipier ? Je pense que la réponse est dans la question.
Je dirais coéquipier.
Ah bon ?
Oui. Oui, parce que être leader, ça veut dire conduire une équipe. On ne fait pas un film tout seul, on fait un film avec une équipe. Parce que la question du pouvoir, elle se joue aussi en tant que réalisateur de films, et elle se résout par l'équipe. On est obligé de déléguer un certain nombre de choses et de faire se rapprocher les talents. C'est le métier de réalisateur de films.
Et une dernière question, la plus belle valeur du sport à vos yeux, à vous ?
Je crois que c'est l'élégance.
L'élégance.
Oui.
Et bien, on va rester sur ce mot-là. Merci beaucoup, François Luciani, d'avoir joué le jeu, de vous être raconté à travers le sport. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Les mamas du Congo sur RFI. De Vivo en mode culture et sport, c'est fini. J'étais très heureuse de vous accompagner durant toute cette période des JO. Et surtout un grand merci à ma super équipe de champions olympiques. Et grand merci à Sophie Jeannin à la réalisation. Merci à Mehdi Jaziri et Chloé Gomez à la rédaction. Dès lundi jusqu'à jeudi et tout le mois d'août, vous retrouverez le berceau de l'histoire de Jean-Pierre Constantin. Et le vendredi, bien sûr, littérature sans frontières de Catherine Fruchon. À la rentrée, c'est le retour de Pascal Paradou pour De Vivo. En vous souhaitant à tous un bel été à l'écoute de RFI et à très bientôt à la rentrée.